Bonsoir et bienvenue à tous. Alors, je dois dire que c'est un plaisir finalement assez rare d'accueillir des collègues à la fois éminents, savants et sympas. Donc, la combinaison est finalement assez rare et là, nous avons coup sur coup deux collègues venus d'outre-Atlantique, donc Madame Valerie Hansen qui nous fait l'honneur d'être ici et qui est là pour un mois à Paris, comme certains d'entre vous le savent, qui s'est déjà adressée à nous en français. Et aujourd'hui, donc, nous avons le professeur Hans Saucy qui vient de l'université de Chicago. Mais en réalité, il triche parce qu'il arrive de Berlin, où il vient de passer une année. Donc, nous avons en fait ces collègues américains qui viennent un peu comme de grands oiseaux migrateurs au mois de juin. On les voit tous arriver en même temps et qui nous font l'amitié de venir nous parler donc en français. Donc, vous allez voir que Ron est parfaitement francophone et pour des raisons que vous allez découvrir tout de suite, puisque je vais vous dire quelques mots justement sur son parcours. C'est quelqu'un donc qui évidemment a été formé aux États-Unis. Il vient de la ville très célèbre du Tennessee, Nashville. Mais enfin bon, c'est pas qu'il en est très fier. Mais enfin, en tout cas, il a commencé sa formation à l'université de Duke. Et ensuite, chose tout à fait remarquable, donc dans les années 1980, il a décidé de venir à Paris pour compléter sa formation, d'abord à l'école pratique des hautes études à Paris, et ensuite donc à l'Institut national des langues orientales, où j'étais alors jeune enseignante. D'ailleurs, j'en profite pour saluer dans la salle d'anciennes étudiantes que je vois reparaître depuis, que je n'ai plus vues depuis des lustres. Alors donc, merci Rand d'avoir forcé mes anciennes étudiantes à venir ici. Et je me souviens qu'on a réussi à se rater, enfin, parce que je crois que Ron était là pour au moins un an, quelque chose comme ça. Pour
deux ans,
oui, c'est ça. Et je ne sais pas comment ça se fait. On a réussi à se rater. Bon, enfin, on s'est rattrapé depuis, mais. Et ensuite, Ron a complété sa formation doctorale à l'université de Yale. Où c'est probablement là qu'il a, dans ces conditions, qu'il a rencontré Valerie, je ne sais pas, voilà. Et ensuite, sa carrière universitaire l'a menée par vraiment les plus grandes universités américaines. Alors, ça a d'abord été Stanford en Californie, ensuite Yale complètement de l'autre côté, donc sur la côte est. Et maintenant, il a choisi d'être au milieu, hein, c'est-à-dire en fait un coup sur la côte ouest, donc à Stanford, un autre coup à Yale sur la côte est, et maintenant il est au milieu à Chicago, où en fait il a des charges d'enseignement dans différents départements, et vous allez voir que ça, là aussi, ça dessine un profil tout à fait intéressant, puisque il enseigne à la fois en littérature comparée, il a également en fait des responsabilités dans le Committee on Social Thought, c'est-à-dire donc le comité sur la pensée sociale, et donc également des responsabilités dans le département de East Asian Languages and Civilization, c'est-à-dire donc, comme on pourrait s'y attendre, le département de langue et civilisation extrême-orientale. Donc, vous voyez comment... je me permets là d'ouvrir une petite parenthèse, justement, sur comparatiste, sur la structuration académiques de nos institutions en France et aux États-Unis. Là, vous voyez que aux États-Unis, on peut être sinisant, hein, travailler sur la Chine, mais en même temps faire partie d'un département de littérature comparée, s'occuper aussi de pensée sociale, ou même en fait être dans un département de philosophie carrément, ou d'histoire, ce qui est presque impensable en France. En France, quand on fait du chinois, on est parqué en quelque sorte dans des départements donc orientalistes et d'études chinoises. Alors, je ne vais pas vous fatiguer avec la liste complète de ces publications, parce que je crois qu'on en aurait jusqu'à demain matin. Simplement, vous donner un échantillon pour vous montrer un petit peu la gamme d'intérêts de Han, qui reste malgré tout cohérente. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout à fait cohérent dans ce programme. Alors, ça commence par un ouvrage sur l'esthétique chinoise, The Problem of Chinese of a Chinese Aesthetic, publié donc en 2010. Il faut savoir aussi que Han a participé à la constitution d'une anthologie d'écrivaines chinoises de la Chine traditionnelle, Women Writers of Traditional China. Donc là, en anglais, on n'a pas ce problème de la féminisation. on dit tout simplement Women Writers. Alors là, en France, c'est un grand débat pour savoir s'il faut dire auteur, autrice, écrivaine.
Si on avait dit poetesses.
Oui, oui, ça, oui, bon, c'est ça, bien. Donc, vous avez également donc des ouvrages de critique littéraire dont je ne vous donne pas le détail, ce serait trop long. Ensuite, il y a également cette édition extrêmement intéressante en anglais du cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure. Vous avez également donc bien sûr une introduction absolument magistrale et incontournable sur la littérature comparée, Introducing Comparative Literature, paru donc en 2015. Et puis, plus donc dans le domaine sinologique, vous avez également une édition qui fait autorité donc des écrits de Li Zhi, qui est un auteur majeur des Ming, enfin un auteur. Je comprends pourquoi Han a pu s'intéresser à quelqu'un comme Li Zhi, parce que c'est un espèce de d'original un peu excentrique, un peu contestataire. Donc je pense que ça lui convient très bien.
Il fallait montrer que les penseurs chinois ne sont pas tous très sages.
Oui, c'est ça, exactement, voilà.
Pas toujours rangé.
Oui. Oui. Et alors, il y a quelque chose de plus récent et que je vous recommande absolument. C'est une réflexion sur la traduction, hein, mais qui n'a absolument pas grand-chose à voir avec la mode actuelle de la traductologie. Ça, c'est une espèce de discipline qu'on a inventé récemment, enfin pour caser un certain nombre de gens. Enfin, là, ça s'appelle donc Translation as Citation, et ça porte essentiellement sur le Zhuangzi, Zhuangzi Inside Out, ça a fait l'objet justement d'une première conférence de Han ici au Collège de France il y a quelque temps. Ça a laissé vraiment une marque absolument indélébile. Tous ceux qui ont assisté à cette conférence se rappellent qu'il s'agissait donc d'un poème de Baudelaire, donc une charogne, avec une étude très serrée donc d'une des traductions en chinois, celle de Xu Zhimo en particulier, pour montrer justement que là nous avons quelque chose qui nous éclaire en réalité sur le travail que fait Zhuangzi en réalité. Donc, voilà. Et alors précisément comme traducteur, Han a traduit en anglais des poèmes du poète francophone haïtien Jean Métellus. Peut-être que certains d'entre vous connaissent notamment le « Au pipiri de chantant » que Ron a traduit dans cette collection. Je ne sais pas si Madame Anne-Marie Métellus est dans le... dans le public. Donc, Jean Métellus nous a quittés il y a quelques années, mais Madame Anne-Marie Métellus nous a fait l'amitié de venir aujourd'hui. Si mes renseignements sont bons, donc Rand prépare la publication d'un ouvrage qui va s'intituler « Are we comparing yet ?» Alors, comment est-ce qu'on traduit ça en français? Est-ce que nous avons commencé à comparer ou non?
Oui,
are we comparing yet?
À quand la comparaison?
D'accord, voilà, très bien. Bien, bien. Alors, donc, si vous voulez donc, des renseignements plus poussés sur le travail de Rand, qui, vous voyez, est absolument immense... Il anime un blog, hein, donc parce qu'il est aussi très proche de la jeune génération et des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs. Et donc sans plus de commentaires, donc je vais lui laisser la parole pour nous parler donc de lecture et littérature transfrontalière en Asie orientale. Alors donc Valerie Hansen nous a parlé justement en fait de ces économies transfrontalières. Maintenant, on va parler donc de littérature. Merci
beaucoup Anne de cette présentation si sympathique. Je vais me consoler quand à 2h du matin, je perds toute la cohérence de ce que je fais. Je vais dire, si c'est Anne qui dit que c'est cohérent, alors il n'y a pas lieu de se désespérer. Donc, merci beaucoup. Je vais dire d'abord, si vous permettez, ma reconnaissance à Anne de m'avoir invité au collège. Ainsi que ma gratitude, souvent renouvelée, toujours recommencée, à l'égard de cette institution exceptionnelle. Omnia docet, elle enseigne toutes sortes de matières et au tout venant. Omnia omnibus docet, cela devrait être la devise du Collège de France. Sans demander un centime de frais et sans faire passer d'examen. Le fait mérite d'être souligné à notre époque qui mesure la valeur par le prix et par l'exclusivité. Deux facteurs qui n'ont pas de place ici. Enfin, un salut à la France, pourquoi pas, car c'est au travers de mes périodes de résidence en France et grâce à certaines lectures françaises que j'ai rencontré ce qu'on peut appeler la philosophie du voyage et du dépaysement. De Baudelaire, avec ses étonnants voyageurs, à Ségalen, avec sa sensation de l'exotisme. J'espère que vous avez tous à la maison le magnifique travail de Colette Camelin et de Muriel Détry qui vient de sortir sur Ségalen. Pour finir, avec Lévi-Strauss qui commence son récit de voyage par « Je hais les voyages et les explorateurs ». On voit que cette philosophie française du voyage est exigeante. Elle l'est parce qu'elle a souvent pris son essor en foulant aux pieds les exemples d'une autre pensée de voyage, également française, l'exotisme, à la manière de Pierre Loti, de Paul Morand, des frères Tarot et j'en passe. Le divers, au sens de Ségalen, de Baudelaire, de Lévi-Strauss, d'Édouard Glissant, exige du voyageur une certaine ouverture d'esprit et la volonté de s'affranchir des lieux communs, de l'esprit casanier. Une tâche rendue de plus en plus difficile depuis 150 ans par la promotion du voyage comme produit de consommation courant. « Dans mes dégoûts surtout, j'ai des goûts élégants », dit le poète Contumace de Tristan Corbière. Eh bien, c'est un peu là la tradition dont je veux me réclamer ici. Parmi les voix que j'ai eu le privilège d'écouter en ces lieux résonne celle de Claude Lévi-Strauss, qui donnait ses derniers cours au collège en 1982. La haine des voyages, affichée par Lévi-Strauss dans les premières lignes de Triste Tropique, son livre clé de 1955, était indissociable d'un remords stimulé par la conscience des ravages accomplis au nom de la civilisation par la société dont il faisait partie. 1955, vous vous souvenez bien, c'était le moment de la décolonisation imminente avec le Vietnam, l'Algérie, Mossadegh, Nasser, Fanon, Sartre. Il était évident que le grand récit porté aux quatre coins du monde par les puissances coloniales s'épuisait. Il fallait un autre regard. Et cet autre regard, c'était aux ethnographes, parmi d'autres, de le livrer en offrant des descriptions de cosmologie, de mythes, de légendes, de comportements, d'éthique et de valeurs appartenant aux sociétés qui avaient été écrasées par la colonisation et le soi-disant progrès. Or, pour Lévi-Strauss, la position de l'ethnographe était pour le moins ambiguë. On a dit parfois que la société occidentale était la seule à avoir produit des ethnographes, que c'était là sa grandeur. Eh bien, Lévi-Strauss n'est pas du tout d'accord. Il pense que l'ethnographe est l'expression, par sa carrière, d'un bien puissant remords. Ce disant, Lévi-Strauss reprend une remarque de Roger Caillois, paru quelques mois avant le bouclage du manuscrit de Triste Tropique. Caillois disait « La supériorité de l'Occident est d'avoir enfin produit des ethnographes. » Les ethnographes d'aujourd'hui, dans leur grande majorité, savent que leur discipline est née avec le colonialisme et qu'il n'y a pas moyen de dissocier les deux. Ils sont donc capables d'une certaine autocritique obligatoire. Je pense que c'est une vertu épistémologique. Mais la question que je veux vous soumettre aujourd'hui n'a pas été posée par les polémistes de 1955. Ils avaient peut-être d'autres soucis en tête. Mais je ne peux pas laisser passer en silence le propos que l'ethnographie relève uniquement de l'Occident, que les autres sociétés n'ont pas ressenti le besoin ou l'opportunité de la chose. Que l'ethnographie soit une gloire ou une tare, doit-on y voir un indice de la singularité de l'Europe dans l'histoire de l'humanité? Eh bien non, je pense. Mais il ne faut pas donner une réponse comme ça, formulaire. Il faut aller voir, il faut juger sur les documents. Et il se trouve que, comme par hasard, j'ai des documents à vous proposer de la Chine traditionnelle, de l'ethnographie d'une autre société non occidentale. Il faut se demander comment les citoyens de cet ailleurs ont considéré leur ailleurs. Autrement dit, comment ils ont perçu ceux qui sont, à leurs yeux, étrangers, halogènes ou barbares. Et comme le monde comporte plus de deux dimensions, l'autre de l'autre n'est pas forcément le même. Rien ne nous dispense donc d'une enquête sur place et sur pièce. Donc, passons aux exemples. Regardons d'abord... j'avais mentionné l'habitude des ethnographes de faire leur autocritique. Voici quelques documents. Au XIIIe siècle, voyons, premier exemple, c'est un résumé d'un voyage en Asie centrale que fit le taoïste Chang Chun Zhenren, l'immortel du printemps sans fin, qui faisait une ambassade en Perse dans l'an 1224, ou plus ou moins. C'est écrit par son disciple Li Zhichang et publié sous le titre « Xiyouji », le voyage vers l'ouest, à ne pas confondre avec le roman « Xiyouji », infiniment plus célèbre pour son héros, le singe pèlerin. Eh bien, cet éminent maître taoïste à qui Genghis Khan a confié cette mission diplomatique quitte la capitale de l'Empire chinois pour se diriger vers l'ouest. Après un moment, il n'y a plus de ville, il y a des prairies, des déserts, des montagnes, ça et là, des campements de nomades. Et le narrateur lui dit, c'est plutôt Li Zhichang, maintenant qui parle, qui décrit les gens qui habitent les steppes. Et vous voyez, il y a une description tout à fait classique, ethnographique, de quoi vivent-ils, comment habitent-ils, comment sont-ils vêtus, et puis un peu sur l'éthos. Pour les contraints, soit ils donnent leur parole, soit ils échangent les bâtons taillés. Donc, ce sont là, dit-il, pour conclure, les coutumes de l'Antiquité. C'est très important de relier ces gens exotiques, ces barbares, ces nomades, à l'Antiquité, parce que, comme on le sait, en Chine, l'antiquité jouit d'un grand prestige. Donc là, c'était le disciple du maître taoïste qui a donné la description en prose. Ensuite, il cite une petite poésie du maître taoïste lui-même. Et bon, je ne vais pas vous le relire en entier, mais ce qui me frappe, ce sont les vers de la fin. « Sheng xian bu de chui wen hua, li dai zong heng zhi zi you. » Il dit « Les sages, c'est-à-dire les fondateurs de la civilisation chinoise, n'ont pas eu besoin de leur révéler la wen hua, un mot très lourd de prestige. » Wenhua, c'est presque dans le domaine religieux, la civilisation avec un grand C. D'âge en âge, dit-il partout, c'est le chacun pour soi de la liberté. Alors, j'admets avoir triché un peu sur les mots de la fin, parce que en traduisant, je ne voulais pas donner le mot tout simplement. Traduire Ziyo par liberté. Le mot a une connotation si positive qu'il aurait faussé l'impression. Ziyo connote plutôt l'absence de structure, de loi, de hiérarchie. Donc je l'ai rendu aussi par le chacun pour soi, qui est plus réaliste, moins positive. D'ailleurs, si vous vous intéressez à ce récit de voyage, Arthur Whaley l'a traduit sous le titre Travels of an Alchemist. Et il a laissé de côté les poésies, il les trouvait fort médiocres. Il avait raison, mais les poésies sont quand même intéressantes. Donc voilà, notre auteur, le taoïste, mêle des observations directes à des analogies et à des jugements de valeur. Quelque part, aux environs de Oulan-Bator, il a rencontré des nomades qui confirment un topos déjà très ancien en Chine, celui de l'homme primitif. Ces nomades vivent d'élevage et de chasse, ils ne cultivent pas la terre et donc ils occupent un créneau de l'histoire chinoise qui remonte à très loin, avant même Shennong, le mythique fondateur de l'agriculture. Quand on quitte la capitale pour aller dans les contrées éloignées, on voyage à reculons dans le temps. Les nomades ne connaissent pas l'écriture non plus. Ils sont obligés donc de dire oui pour dire oui et de dire non pour dire non. Ils n'ont pas ces artifices qui permettent de tricher. Donc ce sont de bons sauvages, de vertueux primitifs. Et dire d'eux qu'ils ont cette liberté des premiers temps, c'est vraiment une sorte de louange. Un autre exemple pour donner le ton. Là, c'est une poésie citée dans l'histoire des Sui. Donc du 5e, 6e siècle plus ou moins. Là, je trouve intéressant que les nomades, les barbares, les exotiques soient cités comme auteurs d'un ouvrage de culture, d'une poésie, d'un chant. Donc l'auteur de l'histoire des Sui a admis tacitement que ce n'étaient pas les seuls Chinois qui pouvaient créer quelque chose de beau, un ouvrage de poésie. Et donc c'est une poésie assez simple. Mais simplicité n'exclut pas la beauté. Chi le chuan yin shan xia, tian si qiong qiong lü, long gai si ye, tian cang cang ye mang mang, feng chui cao di jian niu yang. Il y avait déjà à l'époque des Sui les débuts d'une tradition de poésie des frontières, où le scénario donné d'avance était normalement que les jeunes Chinois partaient défendre la frontière contre les nomades, contre les guerriers barbares. Et il y avait toujours beaucoup de pathos dans ces poésies. Il y a les amis qui se quittent, qui boivent un dernier verre avant que l'un ne chevauche son cheval pour aller à la frontière, braver la misère, le froid, la pénurie et les attaques des barbares. On ne sait jamais si on va revenir ou non. Il y a toute cette tradition, donc toutes ces conventions qui ont donné lieu à des milliers de poésies, quelquefois très belles. Mais c'est toujours d'un point de vue chinois, se confrontant au monde barbare. Ici, ce sont les nomades eux-mêmes qui parlent. Et de quoi parlent-ils? Bon, de leur nature, qui est comme ça infinie, Il y a, on peut dire, une sorte de triple infini de la nature, du ciel et de la plaine, qui se résume sous la similitude d'une grande yourte. J'aime à penser qu'on entend ici parler un peu le nomade lui-même. C'est le sublime, peut-on dire, des nomades. Quoique classique, c'est un passage plus exotique au sens de Ségalène et vraisemblablement plus authentique qu'un autre exemple de poésie barbare, de poésie indigène, cette fois-ci des poésies offertes par les Bailang, par les indigènes Bailang, à l'administrateur chinois de leur coin, dans un épisode bien connu de l'histoire des Han postérieurs. Donc là, ils disent, il y avait un administrateur qui voulait faire du bien aux nomades et donc qui leur offrait des denrées, des biens chinois. Ils ont répondu donc avec appréciation par une série de poésies. Et donc en voilà une où il dit que les Han sont admirables. Da Han Shi Zhi, ils sont bien gouvernés. Yu Tian He Yi, en conformité avec la volonté du ciel. Alors, je soupçonne déjà que ce ne soit pas forcément l'opinion de l'indigène tout à fait authentique et laissée à lui-même, parce que c'est le vocabulaire auto-justificateur de l'Empire chinois. Il fait le reflet des vertus que s'attribuaient les dynasties chinoises. Mais donc, après les cadeaux offerts aux nomades, ils disent « Nous sautons de joie car nous sommes pourvus de tout. Pauvres et chétifs indigènes que nous sommes, nous n'avons rien pour vous récompenser. Notre vœu toutefois, longue vie à l'empereur, que tous ses descendants jouissent de la gloire. » Manyi, à Pinbuo, nous n'avons rien, nous ne pouvons vous offrir que des paroles. C'est très élégant. Mais quand même, j'ai peur que ce ne soit là l'administrateur chinois ou l'historien qui met les paroles dans la bouche des nomades. Et cet épisode est raconté pour démontrer le succès de cet administrateur qui avait réussi à faire rentrer sous la tutelle chinoise 6 millions de personnes qui étaient affiliées au Bailang. Bon, donc c'est peut-être un peu exagéré, mais on voit au nom de quoi l'exagération est faite. Mais revenons donc à notre taoïste du XIIIe siècle. Nous avons deux autres exemples pour donner un peu de relief à son langage. Et donc, ces idées de vertu originelle et de communisme primitif, de l'absence des lois, que l'on retrouve chez le taoïste du printemps éternel, remontent à un grand archétype. C'est l'ethnographie des Xiongnu dressée par Sima Qian, le grand historien des Han. Et comme l'a remarqué Nicolas Di Cosmo dans son excellent livre « Ancient China and its Enemies », le Xiongnu Liezhuan, le chapitre sur les Xiongnu, qu'on traduit conventionnellement par les Han, par les Huns, la description donc des Xiongnu par Sima Qian a deux versants. Selon l'analyse encore de Di Cosmo, il y a des témoignages empiriques basés sur les enquêtes et sur les observations de première main, et ensuite il y a une sorte de théorie du barbare plus spéculative qui dérive de la tradition philosophique, où justement il y a une question de valeur. Dans cette seconde manière de dépeindre les barbares, on se pose la question, est-ce qu'il faut vivre sous le fardeau d'une administration chinoise tatillonne qui extrait toujours beaucoup de valeur des citoyens, des sujets, ou est-ce qu'il ne faut pas être laissé dans la nature? Et donc, Sima Qian, pour avoir pour avoir concédé à cette seconde formule, l'idée que l'homme primitif est l'homme plus libre et donc qui a une meilleure vie, il a été décrit par Dicosmo comme philo-barbare. Et cette inspiration lui vient du vieux Lao Tzu et de l'école taoïste, de ceux qui justement voulaient revenir à l'époque des cordes nouées, de l'époque avant l'écriture et avant l'administration. Une pensée qui soutient qu'il faut que le peuple ait le ventre plein et la tête vide. Donc nous avons là peut-être le grand ligne de partage entre les diverses écoles de pensée de la Chine antique. Il y a les uns, les confucéens et les gistes en premier, qui disent qu'il faut toujours plus de rites, plus de lois, plus d'interdits pour restreindre le mal. Et il y a les autres qui disent que la loi n'est bonne qu'à inspirer le crime. Dès qu'on a une loi, on invite le crime. C'est ce que disent Lao Tzu, Zhuangzi et ce qu'on appelle les primitivistes. Et voilà donc, dans ce récit de voyage, la vérification toute faite. L'exemple des Xionglu chez Sima Qian permettait une critique fondamentale de l'auto-légitimation de l'Empire chinois. Et voilà qu'au XIIIe siècle, notre taoïste, on est encore à dire qu'il n'y a pas besoin de la civilisation, de la Wenhua. Bon. Pour expliquer comment ce taoïste du XIIIe siècle a pu avoir un jugement aussi favorable sur les nomades, on peut bien sûr indiquer le fait qu'il appartient à l'école taoïste, qui était plus portée sur la liberté. On peut aussi penser au fait qu'il remplissait sa mission diplomatique pour le compte des Mongols, eux qui avaient fondé une dynastie, mais qui étaient sortis des steppes tout récemment. Il n'y a pas besoin peut-être de faire un calcul très étroit des intérêts personnels ou institutionnels. L'ethnographie qu'on voit en train de prendre forme ici est, comme toujours, un exercice de définition mutuelle. En décrivant l'autre, on fait apparaître en filigrane le profil de sa propre société, ou plutôt la conception que l'on s'en fait. C'est souvent pour qui sait lire ce qu'il y a de plus vrai dans une ethnographie. Non pas la description de l'autre, mais la description en creux de soi-même. Passons à un autre philo-barbare, ou réputé tel. C'est pour revenir un siècle ou deux en arrière, encore parmi les Song, là. C'est maintenant Su Shi, exilé sur l'île tropicale de Hainan, à l'autre côté de la Chine. Voici quelques références sur l'ethnographie en Chine. Bon, donc Su Shi, pour avoir commis des actes considérés comme lèse-majesté, est exilé de Kaifeng jusqu'à l'île de Hainan, un lieu où on souffrait du paludisme. C'est connu, l'intention est que Su Shi meure dans son exil. Et tout pervers qu'il était, Su Shi n'a pas pris son exil comme une punition. Âgé, malade, mais jamais tout à fait découragé, il s'invente une nouvelle identité. Dans son exil à Hainan, il dit « Wo ben Hainan min »« Moi aussi je suis de Hainan ». Et encore, Zi er Han Li, Jun Shi Yi Min, écoutez-moi, les Han et les Li, la tribu qui était indigène à Hainan, les Han et les Li ne font qu'un peuple. Donc voilà une expression, disons, de respect mutuel. On aime beaucoup voir ça. Et donc les poésies de la collection Hainan, Haiwaiji, Au-delà des mers, de Su Shi, racontent souvent son amitié pour les indigènes, les Li. Et Su Shi se décrit volontiers s'attardant chez l'habitant pour prendre un verre. Une manière de dire que le bannissement ne brisera jamais l'homme qui ne consentit pas à le ressentir comme une punition. Pour dire les choses autrement, Su Shi compose un ensemble de poèmes sur la base des rimes de Tao Yueming,
cet esprit libre qui n'en pouvait plus de faire des révérences pour recevoir 15 boisseaux de riz et qui, déclinant son poste et son salaire, s'en fut vivre retranché du monde. Souche, en faisant écho, littéralement écho, en empruntant les rimes des poésies de Tao Yuanming, voulait dire que pour lui, l'exil était simplement un choix qu'il faisait lui-même, qu'il acceptait de devenir ermite et qu'il le faisait de son plein gré. L'effet miroir de l'ethnographie, dans son cas, consiste à voir dans les barbares non pas des épouvantails, mais des compagnons tout à fait sympathiques, sans doute plus que les collègues du ministère. Dans le poème, où il déclare que les Li et les Han ne font qu'un, il conseille toutefois aux Li d'adopter le style de vie des Han, en mettant avant tout un programme d'acculturation bien intentionné. Souche offre quelques notes ethnographiques d'abord, qui recoupe d'ailleurs ce que disait Valerie Hansen tout à l'heure sur le commerce que faisaient les gens de l'extérieur avec la Chine. À Hainan, le problème économique, c'est que les marchands chinois incitaient les indigènes à ne pas faire de culture de grains et de riz, mais plutôt d'aller cueillir du bois de santal ou d'autres essences qu'ils pouvaient vendre aux Chinois. Là, c'était le produit d'importation principal, comme disait Valerie. Eh bien, dans la préface de cette série de poèmes basés sur Tao Yuanming, Souche dit que son intention était de convaincre les Li d'adopter un style de vie plus caractéristique des Chinois de l'intérieur, de se baser sur l'agriculture des grains. Et cette série de poésies commence comme cela. Souche utilise cette tournure très archaïque qu'on trouve dans le livre des documents, c'est-à-dire dans une collection que tout le monde croyait être du 15e ou 12e siècle avant notre ère, donc de l'époque de la fondation de la culture chinoise. C'est comme si Souche voulait répéter la fondation de la civilisation sur un autre terrain. Qu'il prend sur les Han la responsabilité des problèmes qui sévissent à Hainan. Finalement, ce sont les marchands qui ont induit les Li en erreur parce qu'ils n'ont pas de bonne sustenance. Donc, c'est un peu mission civilisatrice, si l'on veut. Souche continue en faisant aux Li les conseils d'habiter des villages compacts, de se former en lignée, de cultiver les grains, de payer les taxes, de ne pas être paresseux, etc. Tout un style de vie qui était étranger aux gens du coin. Et on voit par la bouche de Souche arriver ce qu'on aurait appelé le progrès. Souche jouit de la fraternité des indigènes, mais se croit tenu de leur donner en échange des leçons de vie. Le mode de vie chinois constitue pour lui une découverte à diffuser le plus largement possible. Le progrès arrivera par des étapes définies et irréversibles. Défrichement des champs, semaille, village, corvée, tenue de registre, impôts, administration. On peut trouver à Souche un esprit très 19e siècle. Ce qui n'est pas, au fond, pas si mal pour un homme de l'XIe siècle. Mais il reste un contraste à relever avec le taoïste des Yuan. Comme Souche, le sire immortel du printemps éternel situait les indigènes sur une ligne chronologique, ils étaient restés en deçà de l'histoire, laquelle commence par l'écriture et les sociétés à hiérarchie bien définie. Pourtant, le taoïste ne manifestait aucun désir de les convertir. Il les observait, certes, les intégrait à une ethnographie convenue et quelque peu fictionnelle, mais les laissait à tout le moins en paix. Donc on voit que, En Chine comme en Europe, l'ethnographie aboutit à des questions d'une grande portée morale et politique, qui portent sur la finalité des institutions sociales, sur le vivre ensemble des sociétés distinctes, sur l'éthique supranationale qui doit régir les communautés obéissant à des principes différents et sans doute incompatibles. Et comme à l'époque de la conquête des Amériques, de la colonisation de l'Afrique, etc., l'hypothèse de départ est qu'on n'arrête pas le progrès, que la diffusion des normes économiques, politiques et culturelles d'un certain centre vers les périphéries est inévitable et somme toute bénéfique, désirable. Au nom de quoi d'ailleurs s'élèverait-on contre cette vague technologique, démographique et grammatologique de la Chine ? Les sociétés asiatiques qui se sont organisées autour des noyaux politiques et religieux autres que les Chinois ont dû adopter les formes dynastiques analogues à celles des Chinois pour leur faire face. Si Su Dongpo a dit que les Li et les Han ne font qu'un peuple, c'est que ce n'était sans doute pas si évident et qu'il y avait donc besoin de le dire. Bien sûr, l'île de Hainan tombait sous la coupe de la dynastie Song, mais ce n'est là qu'une vérité d'administrateur. On sait que sur l'île se trouvaient des populations variées, des colons, des pirates, des marchands, des exportateurs et surtout des indigènes ne parlant pas le chinois et dont les habitudes alimentaires rebutaient Suchu. C'est ainsi que l'ethnographie est fille du colonialisme, simplement parce que, au cours de l'histoire humaine, c'est le pillage et la domination, plutôt que l'échange et la curiosité, qui ont présidé au plus grand nombre de contacts. Sur ces entrefaites, l'ethnographe arrive comme un repentir, comme disait Lévi-Strauss. 670 ans environ, après l'arrivée de Suchu à Hainan, un autre mandarin en disgrâce parvenait à la zone frontalière où il devait purger sa peine. Il s'agit de Ji Yun, membre de l'Académie impériale Hanlin et impliqué dans une affaire de malversation et de délit d'initié. L'empereur avait exilé Ji Yun en 1769 au Xinjiang, à la nouvelle frontière. Je n'ai pas d'indicateur. Mais ici donc on voit l'empire des Qing. En jaune plus foncé, on a les provinces traditionnelles. Le jaune plus clair sont les zones d'une entente diplomatique ou d'alliance. Tout à fait au bout de ce couloir qui va vers l'ouest se trouve Urumqi, qui était le lieu d'exil de Ji Yun. Et le Xinjiang, hein, comme on le sait, Xinjiang veut dire la nouvelle frontière, c'était une province acquise militairement à la suite de quelques 20 années de guerre contre les Dzungars et les musulmans. Donc Ji Yun part dans le nord-ouest lointain et à son retour, 2 ans plus tard, il publie un petit livre de 163 poèmes accompagnés de notes, Urumqi Zashi. Poésie d'Urumqi sur divers sujets. Et c'est un document très riche en observations, valable pour ce qu'il dit et pour ce qu'il ne dit pas. Les poésies sont toutes dans le même style, le style Jueju, 4 vers de 7 caractères chacun. Et l'effet que j'éprouve en feuilletant cette collection n'est pas loin de l'album photo. Chose vue, notation au vol, couleur locale. Ji Yun donc passa près de 2 années au Xinjiang et ses poésies donnent à voir des paysages inhabituels pour un habitant de la Chine des 18 provinces. Voici le début de sa collection. Il y a les montagnes, il y a l'herbe, une ville nouvelle dont on venait de commencer la construction à côté de la ville ancienne. Et la ville nouvelle d'Urumqi s'appelait Dihua. Hein, l'exportation, peut-on dire, de la culture, hein, la diffusion de la culture. C'est le nom de cette nouvelle ville. Les saisons ne sont pas les mêmes qu'en Chine centrale. Il n'y a pas d'eau de pluie, il n'y a que l'eau de fonte des neiges qui permet d'irriguer les terrains. Et donc, une petite observation, « Baito fan wang, nian ba shi, bu zhi chu yu, chang he miao. » Le vieux notable indigène n'a jamais entendu parler des pluies de printemps. Les pluies de printemps, pour un Chinois du centre, c'est la chose la plus normale au monde, qui soit au monde. Et donc la mesure de la qualité exotique du Xinjiang, c'est qu'on peut y passer 80 années sans jamais voir les pluies de printemps. Voici une photo... Évidemment, photoshoppé par quelqu'un. c'est son inauthenticité qui en fait la valeur pour moi. Hein. C'est un peu le Xinjiang tel qu'on l'imagine. Hein. C'est un terrain de montagne, de désert, de yourtes, d'herbes et quelquefois de rivières. Et c'est exactement ce que livre Ji Yun dans sa collection de vers. Donc, après avoir conquis de haute lutte cette terre, les Qing ont fait arriver beaucoup de gens. Il y avait des colonies pénales, un peu comme, disons, l'Australie. J'espère que les Australiens de l'assistance ne vont pas être offensés. Il y avait des colonies militaires, des soldats qui étaient envoyés là-bas, et des colonies civiles. Des gens qui étaient volontaires pour partir au Xinjiang, hein, parce qu'il y avait de nouvelles terres à ouvrir. Quelques-uns, donc, étaient compulsés, étaient forcés de le faire, d'aller là-bas cultiver le grain. D'autres personnes y voyaient le moyen de faire fortune. Et du point de vue agricole, ce sont des terres qui ont été en friche depuis le début de l'histoire et qui maintenant sont cultivées par l'irrigation. Il paraît, d'après ce que nous raconte Ji Yun, que le grain était poussé tellement bien que le prix de vente était inférieur au prix de revient, que les gens faisaient les récoltes un peu en perte. C'est que la terre était tellement fertile. Il est facile, dit Ji Yun, de se procurer un bon champ. Se procurer de l'eau est difficile. L'économie agricole étant bouleversée par l'implantation de ces nouvelles colonies, il y avait donc cette anomalie du prix de grain, encore du jamais vu en Chine, parce que le grain normalement était cher et qu'on n'avait jamais un excédent de grain. Un autre phénomène relevé par Ji Yun, le déséquilibre des deux sexes dans cette colonie imposait non point la dot, mais à l'inverse, le paiement d'un prix à la fiancée. Du jamais vu, hein? C'est le monde à l'envers. Donc, il dédie plusieurs poésies à cette question. En effet, les administrateurs ont dû créer un poste spécial d'entremetteuse de mariage pour résoudre les conflits. Quand plusieurs hommes voulaient se marier et il n'y avait pas assez de femmes. La locution « Shiju », qui l'aurait cru, ressort souvent dans la collection pour marquer les moments de stupeur devant les merveilles et paradoxes de la vie dans l'Ouest lointain. Mais qui dit « monde à l'envers » suppose un endroit. Ce sont les coutumes de l'intérieur, celles du Zhongtu, à l'aune desquels Ji Yun expérimente avec le connu et le possible. Le nouveau venu remarque les façons de vivre et de faire des habitants. Les gens de l'Ouest, dit-il, boivent beaucoup. Les marchands d'alcool s'en retournent ainsi à l'Est chaque année avec 20 ou 30 000 taels de profit. C'est pas mal, Valérie, hein? Hein? Comme histoire économique. L'habitude de fumer du hookah est un autre observateur, et voici un petite poésie sur cet usage du narguilé, le dieu du feu à son temple, parce qu'on verse une donation chaque fois que les amis vous offrent à fumer. Et donc, Ji Yun dit avec un petit trait d'esprit que ce temple est bâti sur la fumée et sur l'eau. Où les chiens, les chiens du nord-ouest. Hein. C'est l'homme de Pékin qui parle. Hein. Il n'y a pas de tour de guet, il n'y a pas de qui va là le soir, mais le chien assure la défense de la maison. Mais quand au milieu de la nuit, ces bêtes se prennent à aboyer après une ombre, le rêveur n'arrive jamais à sa branche du sud, hein, en faisant allusion à une vieille Trenchy, à cette histoire du rêveur qui fait un rêve où il arrive dans un pays inconnu, etc., etc. La branche du sud, donc on peut dire que c'est une locution pour un rêve totalement convaincant qui se substitue à la réalité, mais rêve que Dieu n'arrive pas à faire à cause des chiens. Les Tibétains sauvages qui vont et viennent comme les hirondelles au printemps. Je remarque que la figure de l'indigène au pas silencieux apparaît dans beaucoup de traditions. Jiyun parle aussi des marchands de chevaux qui arrivent de manière saisonnière. Ce sont des Mongols qui troquent les chevaux contre des briques de thé. Tout cela, ce sont des choses que Jiyun a pu lire dans les manuels d'histoire, hein, parce que le commerce des chevaux était toujours stratégique, hein, c'était un enjeu militaire, et les Chinois proposaient des briques de thé séchées contre les chevaux. Donc, hein, c'est la confirmation de quelque chose qu'on a vu dans les livres. Et vous remarquez aussi que Jiyun fait allusion à ce chant nomade sur le mont Chula, hein, et à l'infinité de la steppe. Donc il est tout à fait conscient de cette tradition que j'ai voulu vous esquisser ici en pointillé. Bon, je ne vais pas dire que c'est là de la grande poésie, parce que ce n'est pas de la grande poésie. Mais Jiyun a les qualités d'un bon compagnon de voyage. Il est éveillé, curieux, érudit et il a de l'humour. La forme poétique de ses notules lui a permis, dans une certaine mesure, d'aller au-delà de la simple ethnographie et d'intégrer le lointain nord-ouest au patrimoine littéraire chinois. Sa collection procède à un élargissement de l'imagination collective. Elle a, en outre, innové dans le registre de la poésie de l'exil, car bien sûr, il y a une grande tradition de poètes exilés qui écrivent pour livrer leurs sentiments. Mais selon le premier préfacier de cette collection, Qian Daxin, Jiyun a dit que Jiyun a écrit d'un ton sans mélancolie et sans rancune, d'une manière généreuse et libre. C'est du nouveau dans l'histoire de la poésie de l'exil. Mais c'est là aussi une stratégie, je pense, de Jiyun pour faire passer sa collection sous les yeux des milieux officiels et de l'empereur. Car comment faire autrement qu'écrire d'une manière généreuse et libre quand l'exilé se trouve toujours sous la main protectrice de notre souverain empereur et de ses armées? Quand l'exilé peut se régaler des vins, des légumes et même des poissons de la région du centre chinois, ce qui est étonnant au point de vue de l'histoire économique, n'est-ce pas? Les poissons vivants sont livrés de la région de Nankin jusqu'à Urumqi. Et quand la musique et le théâtre d'Urumqi ne sont en rien, c'est Jiyun qui le dit encore, inférieurs aux troupes de la capitale. Bref, quand l'exil ne fait que prolonger les merveilles du chez-soi. Le voyage au Xinjiang devient un puissant témoignage de la volonté transformatrice de la dynastie Qing en pleine expansion. Il observe avec satisfaction la diffusion des normes rituelles de l'Empire, voilà, hein, une sorte de cérémonie en l'honneur de la cour dans un temple local, et Jiyun suppose même que l'arrivée de tant de colons de l'intérieur a transformé le climat. J'étais étonné de le dire, car bien sûr, tous les journaux que je lis sont pleins de nouvelles du changement climatique. Et Jiyun, en 1770, écrit que les fumées de 10 000 nouveaux foyers ont chauffé les nuages et fait fondre les vieilles glaces du Tian Shan. c'est-à-dire que la chaleur dégagée par la population a fait changer, a fait monter la température. Je ne suis pas sûr que ce soit là une observation climatologique, mais plutôt une sorte de typologie, car dans la rhétorique ancienne, le nord et l'ouest étaient des zones d'ombre et de froid. Et le simple fait d'arriver de la Chine, du centre de la Chine, dans ces régions, a dû faire monter la température par association. Pas forcément d'une manière qu'on peut mesurer à l'aide de la mercure. Et quand l'administration régionale déclare ouvert les examens de recrutement au service public, alors là, pour un lettré chinois du XVIIIe siècle, c'est la normalisation absolue. Donc voici le chant de triomphe du lettré qui dit que les marchés maintenant sont pleins de reliures brodées et de fermoirs d'ivoire. Les livres confucéens ont aujourd'hui traversé le fleuve Honan, fleuve associé à la lignée de Genghis Khan. Et Zheng Qiao, pendant la dynastie Song, a dit bon, il n'y a pas d'espoir que la véritable culture passe dans ces régions de nomades. Et alors, 500 années après, c'est arrivé. Bon, donc il y a un peu d'observation et un peu de maquillage idéologique ici. La Chine officielle de nos jours a du mal à accepter l'idée que les terrains conquis par les Qing soient autre chose que la Chine, tout simplement. Vous avez vu tant de controverses et de querelles parmi les historiens. Il y a la soi-disant New Qing History qui a appliqué certains concepts du postcolonialisme à l'action des Mandchous en Chine, du nord et de l'ouest. Et des historiens chinois ont été terriblement offensés par cela. J'ai sous les yeux un article d'un historien Shouwei Keque Yuan qui dit que cette nouvelle histoire des Qing, c'est une histoire impérialiste qui regarde l'histoire de la Chine d'un point de vue impérialiste avec des perspectives impérialistes et des yeux d'impérialistes. C'est voir la dynastie des Qing comme l'impérialisme façon Qing. Cette nouvelle histoire des Qing, dit-il, est absurde du point de vue académique et nuit à l'unité de la Chine. Bon, c'est le dernier membre de la phrase qui résume le tout. On est terriblement embêté par le fait que le Tibet et le Xinjiang ne soient pas intégré à l'histoire chinoise et que ce soit des régions ajoutées assez récemment à la Chine et finalement que ce soit aussi les Mandchous et non pas une dynastie ethniquement chinoise qui ont fait cela. Mais les Mandchous, eux, se souciaient très peu de ce genre de langage d'unité. Eux aimaient à jouer sur plusieurs registres à la fois, à se présenter comme les protecteurs des grands lamas, comme les chefs de lignée mongole, comme les empereurs de la Chine, réglant les affaires de chaque communauté par ses habitudes historiques. Donc, je pense que dans ce langage un peu surfait de l'unité de la Chine, il y a une volonté de négliger ce qui était pour les Mandchous une stratégie explicitement choisie d'intégration par le multiculturalisme. Donc, je vais résumer en quelques mots là. Dans le champ d'études qui est le mien, la littérature comparée, on parle de nouveau, depuis quelques années, de la Weltliteratur. Un mot qu'a fait ressortir Goethe en 1837, la littérature mondiale. Il y a tant de livres sur la littérature mondiale. Je cite les noms de Emily Apter, David Damrosch, Franco Moretti. Tout le monde veut faire la chronologie de la littérature, de la mondialisation en littérature. Et je trouve un défaut commun à tous ces projets, c'est que ce sont toujours des projets européocentriques. On calque cette histoire de la diffusion d'un certain modèle de la littérature sur les histoires de l'économie mondiale qui commence en 1500. Et comme le savent très bien les historiens de la Chine, le monde n'a pas commencé en 1500. La mondialisation existait bel et bien avant cela. Il y avait plusieurs systèmes et non pas un seul world system de l'économie. Et c'est pareil pour la littérature. La littérature chinoise, dans sa confrontation, ses multiples confrontations avec les autres, avec les peuples d'à côté, a constitué une sorte de Weltliteratur longtemps avant que Goethe ne hasarde cette formulation. Donc je pense qu'il y a à revoir nos modèles et que la chose qui peut nous stimuler à le faire, c'est l'observation des confrontations et des conversations des Chinois avec des gens qui n'étaient pas comme eux et qui n'étaient pas des Européens ni des Occidentaux. Voilà ma recommandation. Comme dès qu'on met ensemble la Chine et la littérature comparée, il est comme obligatoire de supposer qu'on va mettre ensemble des ouvrages européens et des ouvrages de la tradition dominante chinoise. Le rêve dans le pavillon rouge et la recherche du temps perdu. Voilà le genre de choses qui est très classique. Mais il faudrait peut-être plutôt mettre ensemble le Sanguoyeni et les épopées de l'Asie centrale. D'autres voisinages qui ont été plus importantes pour l'histoire, vu du point de vue des gens qui ont habité la Chine et les terrains limitrophes. Donc voilà ma recommandation pour vous. Et je pense que c'est aussi la fin de mes diapos. Oui, voilà. Donc, quelques références pour la New Qing History dont je parlais. Merci de votre attention.